From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Diffusé depuis le centre de conférence Temple Square à Salt Lake City. Voici la session du dimanche après-midi de la 186e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le Mormon Tabernacle Choir. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry Ehring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Brothers and sisters, we welcome you to the
Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du dimanche après-midi de la 186e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations aux membres de l'Église et à nos nombreux amis de partout qui suivent le déroulement de cette conférence. La musique de cette session sera interprétée par le Mormon Tabernacle Choir sous la direction de Mac Wilberg et Ryan Murphy, accompagné par Bonnie Goodleaf et Linda Margetts à l'orgue. Le chœur ouvrira cette session en chantant « Ô toi vérité ». Ensuite, Enrique Falabella, des 70, fera la prière d'ouverture. Il sera suivi par le chœur qui chantera « Brillante étoile, étoile du matin ».
Our beloved Heavenly Father,
notre cher Père Céleste bien-aimé, nous t'aimons et nous t'aimons ton Fils, Jésus-Christ. Nous sommes si reconnaissants pour la merveilleuse occasion que nous avons de participer à ces sessions, pour les messages que nous entendrons et pour chacun des dirigeants qui vont nous parler aujourd'hui. Nous sommes si reconnaissants pour notre prophète, le président Manson, pour ses conseillers et les membres des 12. Nous exprimons notre reconnaissance pour le rétablissement de l'Évangile, pour l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, et particulièrement pour le sacrifice expiatoire de ton Fils Jésus-Christ. Nous prions aujourd'hui, Père, pour que notre esprit et nos cœurs soient ouverts et que nous comprenions les messages que tu as pour nous. Et nous prions pour que ton esprit soit avec nous aujourd'hui. Et nous te demandons ces choses au nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Nous aurons à présent le plaisir d'entendre David Bednard du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Brian Ashton, deuxième conseiller dans la présidence générale de l'école du dimanche. Ensuite, Carl Cook des 70 nous adressera la parole.
À la conclusion du sermon sur la montagne, le Sauveur a souligné la vérité éternelle selon laquelle ce n'est qu'en faisant la volonté du Père que l'on peut obtenir la grâce salvatrice du Fils. Il a déclaré : Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous comprenons mieux cet épisode en réfléchissant à la révision inspirée du texte. De manière significative, la phrase du Seigneur rapportée dans la version du roi Jacques de la Bible, « Je ne vous ai jamais connu », a été remplacée dans la traduction de Joseph Smith par « Vous ne m'avez jamais connu ». Examinez également la parabole des dix vierges. Rappelez-vous que les cinq vierges folles et qui ne s'étaient pas préparés pour sont partis chercher de l'huile pour leur lampe après avoir entendu l'appel à aller à la rencontre de l'époux. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas ». Une autre révision inspirée développe les implications de cette parabole pour chacun de nous. Il est important de noter que l'expression « je ne vous connais pas », telle qu'elle est rapportée dans la version du roi Jacques de la Bible, a été rendue par « vous ne me connaissez pas » dans la traduction de Joseph Smith. Les expressions « vous ne m'avez jamais connu » et « vous ne me connaissez pas » devrait inciter chacun d'entre nous à une profonde introspection spirituelle. Est-ce que nous avons uniquement des connaissances au sujet du Sauveur, ou apprenons-nous à le connaître de mieux en mieux ? Comment connaître le Seigneur ? C'est sur ces questions essentielles que porte mon discours. Je demande sincèrement l'aide du Saint-Esprit pendant que nous examinons ensemble ce sujet vital. Jésus a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Nous apprenons à connaître le Père en apprenant à connaître son Fils bien-aimé. Un grand objectif de la condition mortelle n'est pas simplement d'apprendre des choses sur le Fils unique du Père, mais également de s'efforcer de le connaître. Voici quatre étapes essentielles qui peuvent nous aider à connaître le Seigneur. 1. Exercer notre foi en lui. 2. Le suivre. 3. Le servir. Et 4. Le croire. L'exercice de la foi en Jésus-Christ consiste à se reposer sur ses mérites, sa miséricorde et sa grâce. Nous commençons à connaître le Sauveur quand nous donnons de l'essor à nos facultés spirituelles et faisons l'expérience de ses enseignements, jusqu'à pouvoir faire place dans notre âme à une partie de ses paroles. Lorsque notre foi au Seigneur augmente, nous lui faisons confiance et nous nous fions à son pouvoir de nous racheter, de nous guérir et de nous fortifier. La véritable foi est axée sur le Seigneur et conduit toujours à agir en justice. La foi au Christ est le premier principe de la religion révélée, le fondement de toute justice et le principe d'action chez tous les êtres intelligents. Parce qu'il est capital d'agir conformément aux principes corrects que le Rédempteur a proclamés pour recevoir et exercer la foi véritable, la foi sans les œuvres est inutile. Nous devons mettre la parole en pratique et ne pas nous borner à l'écouter. Entendre la parole de Dieu et recevoir le don spirituel de la foi au Sauveur sont deux éléments étroitement liés, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Nous faisons connaissance avec lui et avec sa voix en étudiant et en nous faisant un festin de sa parole dans les Écritures, en priant le Père en son nom avec une intention réelle et en recherchant la compagnie constante du Saint-Esprit. L'apprentissage et l'application dans notre vie de la doctrine du Christ est une condition préalable à la réception du don de la foi en lui. L'exercice de la foi au Seigneur est une préparation nécessaire pour le suivre. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Pierre et André sont des exemples marquants de personnes qui entendent et suivent le Maître. De la même manière, le Sauveur nous commande à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Se charger de sa croix, c'est se refuser toute impiété et toute convoitise profane et respecter les commandements du Seigneur. Le Sauveur nous a exhortés à devenir tel que lui. Ainsi, suivre le Seigneur implique de l'imiter. Nous continuons d'apprendre à le connaître en cherchant, par le pouvoir de son expiation, à devenir semblable à lui. Dans son ministère, dans la condition mortelle, Jésus a indiqué le chemin, a ouvert la voie et a montré l'exemple parfait. Une idée exacte de sa personnalité, de sa perfection et de ses attributs alimente une détermination constante et une direction claire, tandis que nous le suivons sur la voie du disciple dévoué. Suivre le Sauveur nous permet également de recevoir la connaissance véritable que le cours de notre vie est conforme à la volonté de Dieu. Cette connaissance n'est pas un mystère insaisissable et n'est pas centrée principalement sur nos aspirations temporelles ou nos préoccupations ordinaires de la condition mortelle, mais une progression constante et durable le long du chemin des alliances et le genre de vie qui lui est agréable. Le rêve de Léhi dans le Livre de Mormon identifie le chemin que nous devrions suivre, les difficultés que nous rencontrerons et les ressources spirituelles disponibles pour nous aider à aller au Sauveur et à le suivre. Marcher résolument sur le chemin étroit et resserré est ce qu'il veut que nous fassions. Goûter du fruit de l'arbre et devenir profondément convertis au Seigneur sont les bénédictions qu'il désire ardemment que nous recevions. C'est pourquoi il nous lance l'invitation « Viens et suis-moi ». Exercer notre foi en Jésus-Christ et le suivre constitue une préparation nécessaire pour le servir. Car comment un homme connaît-il le Maître qu'il n'a pas servi et qui est étranger pour lui et est loin des pensées et des intentions de son cœur? Nous apprenons à mieux connaître le Seigneur en le servant et en œuvrant dans son royaume. Quand nous le faisons, il nous accorde généreusement l'aide des cieux, des dons spirituels et des capacités accrues. Il ne nous laisse jamais seuls lorsque nous travaillons dans sa vigne. Il a déclaré, « J'irai devant votre face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur, et mes anges seront autour de vous pour vous soutenir. » Nous apprenons à connaître le Sauveur en faisant de notre mieux pour aller là où il veut que nous allions, en nous efforçant de dire ce qu'il veut que nous disions et en devenant ce qu'il veut que nous devenions. Lorsque nous reconnaissons humblement que nous dépendons entièrement de lui, il accroît notre capacité de servir toujours plus efficacement. Progressivement, nos désirs se conforment plus complètement aux siens et ses desseins deviennent les nôtres, de telle sorte que nous ne demandons pas ce qui est contraire à sa volonté. Le servir requiert tout notre cœur, tout notre pouvoir, tout notre esprit et toutes nos forces. Par conséquent, le service désintéressé contrecarre les tendances égocentriques et égoïstes de l'homme naturel. Nous apprenons à aimer les gens que nous servons, et comme servir les autres revient à servir Dieu, nous en venons à l'aimer et à aimer nos frères et nos sœurs plus profondément. Cet amour est une manifestation du don spirituel de la charité, c'est-à-dire l'amour pur du Christ. Priez le Père de toute l'énergie de votre cœur, afin d'être rempli de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils, Jésus-Christ, afin de devenir les fils de Dieu, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est, afin que nous ayons cette espérance, afin que nous soyons purifiés comme il est pur. Nous apprenons à connaître le Seigneur lorsque nous sommes remplis de son amour. Est-il possible d'exercer notre foi en lui, de le suivre, de le servir, mais de ne pas le croire? Je connais des membres de l'Église qui reconnaissent que la doctrine et les principes contenus dans les Écritures et proclamés depuis cette chair sont vrais. Et pourtant, ils ont du mal à croire que ces vérités de l'Évangile s'appliquent spécifiquement à leur vie et à leur situation. Ils semblent avoir foi au Sauveur, mais ils ne croient pas que les bénédictions qu'il a promises leur sont accessibles ou peuvent opérer dans leur vie. Je rencontre également des frères et sœurs qui remplissent leurs appels consciencieusement, mais pour qui l'Évangile rétabli n'est pas encore devenu une réalité vivante et transformatrice dans leur vie. Nous en venons à connaître le Seigneur, non seulement lorsque nous croyons en lui, mais également lorsque nous le croyons, lui et ses affirmations. Dans le Nouveau Testament, un père a demandé au Sauveur de guérir son enfant. Jésus a répondu, « Si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » J'ai réfléchi de nombreuses fois à la demande de ce père, « Viens au secours de mon incrédulité. » Je me suis demandé si la supplique de l'homme n'était pas essentiellement de l'aider à croire en Jésus en tant que Rédempteur et en son pouvoir guérisseur. Il avait peut-être déjà reconnu dans le Christ le Fils de Dieu, mais peut-être avait-il besoin d'aide pour croire que le pouvoir de guérison du Maître pouvait véritablement être si individuel et si personnel qu'il pouvait bénir son propre Fils bien-aimé. Peut-être croyait-il au Christ en général, mais pas au Christ à titre spécifique et personnel. Nous témoignons souvent de ce que nous savons être vrai, mais peut-être que la question la plus pertinente pour chacun de nous est « Croyons-nous ce que nous savons ?» Les ordonnances sacrées accomplies par l'autorité compétente de la prêtrise sont essentielles pour croire au Sauveur, le connaître et, en fin de compte, croire ce que nous savons. Et cette plus grande prêtrise de Melchisédek administre l'Évangile et détient la clé des mystères du royaume, oui, la clé de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi le pouvoir de la divinité se manifeste dans ses ordonnances. Nous croyons et nous venons à connaître le Seigneur lorsque la clé de la connaissance de Dieu administrée par la prêtrise de Melchisédek déverrouille la porte et nous permet de recevoir le pouvoir de la divinité dans notre vie. Nous croyons et nous venons à connaître le Sauveur lorsque nous le suivons en recevant et en honorant fidèlement les saintes ordonnances et lorsque notre visage est de plus en plus empreint de son image. Nous croyons et nous venons à connaître le Christ lorsque nous ressentons personnellement le pouvoir transformateur, guérisseur, fortifiant et sanctificateur de son expiation. Nous croyons et venons à connaître le Maître lorsque le pouvoir de sa parole prend racine en nous, est écrit dans notre esprit et dans notre cœur, et lorsque nous délaissons tous nos péchés pour le connaître. Le croire, c'est être confiant que ces abondantes bénédictions nous sont accessibles et s'appliquent à notre vie personnelle et à celle de notre famille. En marchant résolument le long du chemin des alliances, en lui remettant notre volonté et en nous soumettant à ses priorités et à son calendrier pour nous, nous pourrons le croire de notre âme tout entière. Le fait de croire, reconnaître que son pouvoir et ses promesses sont vraies, nous donne perspective et paix. Un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est le Christ. Ce jour béni, nous saurons qu'il connaît chacun d'entre nous par son nom. Et je témoigne et promets que nous pouvons non seulement savoir ces choses sur le Seigneur, mais également le connaître en exerçant notre foi en lui, en le suivant, en le servant et en le croyant. J'en témoigne. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
La visite de Jésus aux Néphites après sa résurrection fut soigneusement prévue pour nous enseigner des choses de la plus grande importance. Cela commença par le Père témoignant au peuple que Jésus est son Fils bien-aimé, en qui il se complaît. Puis Jésus-Christ en personne descendit et témoigna de son sacrifice expiatoire, invitant les gens à savoir avec certitude qu'il était le Christ, en s'avançant et en mettant la main dans son côté, et en touchant la marque des clous dans ses mains et dans ses pieds. Ces témoignages établirent avec certitude que l'expiation de Jésus était terminée et que le Père avait accompli l'alliance qu'il avait faite de donner un Sauveur. Jésus expliqua ensuite aux Néphites, en leur enseignant sa doctrine, comment obtenir toutes les bénédictions du plan du bonheur du Père qui nous sont accessibles grâce à son expiation. Aujourd'hui, mon message porte sur la doctrine du Christ. Les Écritures la définissent comme l'exercice de la foi au Christ et en son expiation, le repentir, le baptême, la réception du don du Saint-Esprit et la persévérance jusqu'à la fin. L'expiation du Christ crée les conditions permettant de nous reposer sur les mérites, la miséricorde et la grâce du Saint-Messie, d'être rendus parfaits en Christ, de recevoir tout ce qui est bon et d'obtenir la vie éternelle. D'autre part, la doctrine du Christ est le moyen, le seul moyen, grâce auquel nous pouvons obtenir toutes les bénédictions qui nous sont accessibles grâce à l'expiation de Jésus. C'est la doctrine du Christ qui nous permet d'accéder au pouvoir spirituel, qui nous fera passer de notre état spirituel actuel à un état où nous pouvons être rendus parfaits comme le Sauveur. D. Todd Christofferson a dit de ce processus conduisant à une nouvelle naissance. Contrairement à notre naissance physique, naître de nouveau est davantage un processus qu'un événement. Et le but essentiel de la condition mortelle est de s'engager dans ce processus. Examinons chaque élément de la doctrine du Christ. Premièrement, la foi en Jésus-Christ et en son expiation. Les prophètes ont enseigné que la foi commence quand on entend la parole du Christ. Les paroles du Christ témoignent de son sacrifice expiatoire et nous disent comment nous pouvons obtenir le pardon, des bénédictions et l'exaltation. Quand nous entendons les paroles du Christ, nous exerçons la foi en choisissant de suivre les enseignements et l'exemple du Sauveur. Néphie enseigne que, pour faire cela, nous devons nous reposer entièrement sur les mérites du Christ qui est puissant à sauver. Comme Jésus était un Dieu dans la vie prémortelle, comme il a eu une vie sans péché, et pendant son expiation a satisfait toutes les exigences de la justice pour vous et pour moi, il a le pouvoir de ressusciter tous les hommes et détient les clés pour le faire. Et il a permis que la miséricorde l'emporte sur la justice à condition que nous repentions. Une fois que nous comprenons que nous pouvons obtenir la miséricorde grâce au mérite du Christ, nous pouvons avoir la foi qui produit le repentir. Nous reposer entièrement sur les mérites du Christ signifie donc croire qu'il a fait ce qui était nécessaire pour nous sauver et agir conformément à ce que nous croyons. La foi nous amène aussi à ne plus autant nous inquiéter de ce que les autres pensent de nous et à commencer à nous préoccuper beaucoup plus de ce que Dieu pense de nous. Deuxièmement, le repentir. Samuel Lamanite enseignait, « Si vous croyez en Christ, vous vous repentirez de tous vos péchés. » Le repentir est un don précieux de notre Père Céleste qui est rendu possible par le sacrifice de son Fils unique. C'est le processus qu'a donné le Père par lequel nous pouvons changer nos pensées, nos actions et notre personnalité afin de devenir davantage comme le Sauveur. Il ne sert pas seulement pour des péchés graves, mais c'est un processus quotidien d'auto-évaluation et d'amélioration qui nous aide à surmonter nos péchés, nos imperfections, nos faiblesses et nos défauts. Le repentir nous fait devenir de vrais disciples du Christ, ce qui nous remplit d'amour et bannit toute crainte. Le repentir n'est pas une solution de secours pour le cas où notre plan de vie parfait échoue. Le repentir continuel est le seul chemin qui peut nous apporter une joie durable et nous permettre de retourner vivre avec notre Père céleste. Grâce au repentir, nous devenons soumis et obéissants à la volonté de Dieu. Mais on ne peut pas y arriver tout seul. La reconnaissance de la bonté de Dieu et de notre néant, combinée à tous nos efforts pour conformer notre comportement à la volonté de Dieu, fait entrer la grâce dans notre vie. La grâce est l'aide ou la force divine donnée grâce à l'immense miséricorde et l'amour de Jésus-Christ, afin d'accomplir les bonnes œuvres que nous ne pourrions pas faire si nous étions laissés à nous-mêmes. Comme le but du repentir est que nous devenions comme le Sauveur, ce qui nous est impossible d'accomplir seuls, nous avons désespérément besoin de sa grâce afin de faire les changements nécessaires dans notre vie. Lorsque nous nous repentons, nous remplaçons notre ancien comportement mauvais, nos faiblesses, nos imperfections et nos craintes par un nouveau comportement et de nouvelles croyances qui nous rapprochent du Sauveur et nous aident à devenir comme lui. Troisièmement, le baptême et la Sainte Cène. Le prophète Mormon enseignait que les prémices du repentir, c'est le baptême. Pour que le repentir soit total, il doit être associé à l'ordonnance du baptême accomplie par une personne qui détient l'autorité de la prêtrise de Dieu. Pour les membres de l'Église, les alliances contractées au moment du baptême et à d'autres occasions sont renouvelées lorsqu'ils prennent la Sainte Cène. Au cours des ordonnances du baptême et de la Sainte Cène, nous faisons alliance de respecter les commandements du Père et du Fils, de toujours nous souvenir du Christ et d'être disposés à prendre son nom ou son œuvre et ses qualités sur nous. En contrepartie, le Sauveur fait alliance de nous pardonner ou de nous remettre nos péchés et de déverser plus abondamment son Esprit sur nous. Il promet aussi de nous préparer à la vie éternelle en nous aidant à devenir comme lui. Les ordonnances et les alliances sont essentielles dans la doctrine du Christ. Quand nous recevons dignement les ordonnances de la prêtrise et respectons les alliances qui leur sont associées, le pouvoir de la divinité se manifeste dans notre vie. D'Todd Christofferson a expliqué que ce pouvoir de la divinité se manifeste en la personne et par l'influence du Saint-Esprit. Quatrièmement, le don du Saint-Esprit. Après le baptême, nous recevons le don du Saint-Esprit par l'ordonnance de la confirmation. Si nous le recevons, ce don nous permet d'avoir la compagnie constante d'un Dieu et l'accès continuel à la grâce qui accompagne son influence même. Le Saint-Esprit, notre compagnon constant, nous donne le pouvoir ou la force supplémentaire de respecter nos alliances. Il nous sanctifie aussi, ce qui signifie que nous sommes libérés du péché et devenons purs et saints par l'expiation de Jésus-Christ. Le processus de sanctification non seulement nous purifie, mais il nous dote aussi des dons spirituels ou des qualités divines du Sauveur et change notre nature même, de sorte que nous n'avons plus de disposition à faire le mal. Chaque fois que nous recevons le Saint-Esprit dans notre vie par la foi, le repentir et les ordonnances, le service chrétien et d'autres comportements justes, nous sommes transformés jusqu'à ce que, progressivement, petit à petit, nous devenions comme le Christ. Cinquièmement, persévérer jusqu'à la fin. Le prophète Néphi enseignait qu'une fois que nous avons reçu le don du Saint-Esprit, nous devons persévérer jusqu'à la fin à suivre l'exemple du Fils du Dieu vivant. Dale G. Renlund a décrit le processus de persévérance jusqu'à la fin de la façon suivante. Nous pouvons être rendus parfaits en faisant preuve de foi en lui, en nous repentant, en prenant la Sainte Cène pour renouveler les alliances et les bénédictions du baptême, et en ayant la compagnie constante du Saint-Esprit. Si nous le faisons, nous devenons plus semblables au Christ, et nous sommes capables de persévérer jusqu'à la fin avec tout ce que cela implique. En d'autres termes, la réception du Saint-Esprit et le changement qu'elle opère nous édifie davantage notre foi. Une foi plus grande conduit à un repentir plus profond. En sacrifiant symboliquement notre cœur et nos péchés sur l'autel de la Sainte Cène, nous recevons le Saint-Esprit à un degré supérieur. La réception plus abondante du Saint-Esprit nous permet d'avancer sur le chemin de la nouvelle naissance. En continuant ce processus et en obtenant toutes les ordonnances et en contractant toutes les alliances salvatrices de l'Évangile, nous recevons grâce sur grâce jusqu'à ce que nous recevions la plénitude. Frères et sœurs, mettons en pratique la doctrine du Christ dans notre vie. Nous sommes bénis à la fois temporellement et spirituellement, même dans les épreuves. Nous finirons par nous saisir de tout ce qui est bon. Je témoigne que ce processus s'est produit et continue de se produire dans ma vie, progressivement, petit à petit. Mais nous devons surtout mettre en pratique la doctrine du Christ dans notre vie parce qu'elle indique le seul chemin qui ramène auprès de notre Père céleste. C'est la seule façon de recevoir le Sauveur et de devenir ses fils et ses filles. En fait, la seule façon d'être racheté du péché et de progresser spirituellement est de mettre en pratique la doctrine du Christ dans notre vie. Autrement, comme l'enseigne l'apôtre Jean, quiconque ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. Jésus en personne a dit aux 12 disciples néphites que si nous ne faisons pas preuve de foi en Christ, ne nous repentons pas, ne nous faisons pas baptiser, ne persévérons pas jusqu'à la fin, nous serons abattus et jetés au feu, d'où nous ne pouvons plus revenir. Comment pouvons-nous donc mettre en pratique la doctrine du Christ plus complètement? Nous pourrions faire un effort conscient chaque semaine pour nous préparer pour la Sainte Cène, en prenant le temps de nous demander dans la prière dans quel domaine nous avons le plus besoin de nous améliorer. Nous pourrions ensuite apporter en sacrifice sur l'autel de la Sainte Cène au moins une chose qui nous empêche d'être comme Jésus-Christ, suppliant avec foi pour recevoir de l'aide, demandant les dons spirituels nécessaires et faisant alliance de nous améliorer pendant la semaine à venir. Si nous le faisons, le Saint-Esprit se manifestera davantage dans notre vie et nous aurons plus de force pour surmonter nos imperfections. Je témoigne que Jésus-Christ est le Sauveur du monde et que son nom est le seul par lequel nous pouvons être sauvés. Tout ce qui est bon ne nous est accessible que par lui. Mais pour nous saisir de tout ce qui est bon, notamment la vie éternelle, nous devons continuellement mettre en pratique la doctrine du Christ. Au nom sacré de Jésus-Christ, amen.
Enfant, j'aimais travailler avec mon oncle Lyman et ma tante Dorothy dans leur ferme. En général, l'oncle Lyman dirigeait nos projets, la tante Dorothy aidait souvent en conduisant le vieux pick-up. Je me souviens de la montée d'adrénaline lorsqu'on s'embourbait ou l'on essayait de gravir une colline escarpée. L'oncle Lyman criait « Dorothy, enclenche le différentiel !» C'est à ce moment-là que je me mettais à prier. Tant bien que mal, avec l'aide du Seigneur, et après quelques grincements de la boîte de vitesse, ma tante Dorothy enclenchait le différentiel. Avec les quatre roues motrices en marche, le pick-up avançait brusquement et notre travail se poursuivait. Enclencher le différentiel fait référence à l'utilisation d'une vitesse spéciale associant plusieurs engrenages pour produire un couple plus important. Un engrenage composé associé à quatre roues motrices permet de rétrograder et de générer plus de puissance pour avancer. J'ai la pensée que chacun de nous fait partie d'un engrenage composé lorsque nous servons ensemble dans l'Église, dans les paroisses et les branches, dans les collèges et les auxiliaires. Tout comme les engrenages s'associent pour générer plus de puissance, nous avons plus de puissance lorsque nous nous unissons. Lorsque nous nous unissons pour nous servir les uns les autres, nous accomplissons bien plus ensemble que ce que nous pourrions faire séparément. C'est excitant d'être engagé et uni lorsque nous servons et participons à l'œuvre du Seigneur. La possibilité de servir est l'une des grandes bénédictions de notre appartenance à l'Église. Le Seigneur a dit « Si tu m'aimes, tu me serviras. » Et nous le faisons en servant les autres. Lorsque nous servons, nous nous rapprochons de Dieu. Nous apprenons à le connaître d'une manière qui ne serait pas possible autrement. Notre foi en lui augmente. Nous relativisons nos problèmes. La vie devient plus plaisante. Notre amour pour les autres augmente, ainsi que notre désir de servir. Grâce à ce processus merveilleux, nous devenons plus semblables à Dieu et nous nous préparons mieux à retourner en sa présence. Comme l'a enseigné Marion Romney, le service n'est pas quelque chose que nous devons endurer sur cette terre afin de pouvoir mériter le droit de vivre dans le royaume céleste. le service et la fibre même dont est constituée la vie exaltée dans le royaume céleste. Cependant, le service dans l'Église peut être difficile si l'on nous demande de faire quelque chose qui nous effraie, si nous nous lassons de servir ou si nous sommes appelés à faire quelque chose que nous ne trouvons pas attrayant au premier abord. Récemment, j'ai reçu une nouvelle affectation. Je servais dans l'interrégion d'Afrique du Sud-Est. C'était palpitant de servir dans une région où l'Église est relativement jeune et en cours d'établissement, et nous aimions les saints. Puis j'ai été appelé à revenir au siège de l'Église, et pour être honnête, je n'étais pas vraiment enthousiaste. Un changement d'affectation me mettait dans une situation que je ne maîtrisais pas. Une nuit, après avoir médité sur ce changement imminent, j'ai rêvé de mon arrière-grand-père, Joseph Skeen. Je savais grâce à son journal que lorsque sa mère, Maria, et lui avaient emménagé à Nauvoo, il avait désiré servir et était donc allé trouver Joseph Smith, le prophète, pour lui demander ce qu'il pouvait faire pour aider. Le prophète lui avait demandé de travailler dans la ferme des Smiths et de faire de son mieux, et c'est ce qu'il avait fait. J'ai médité sur la bénédiction que Joseph Skeen avait eue en recevant son affectation de cette manière. Tout à coup, je me suis rendu compte que j'avais la même bénédiction comme chacun de nous. Tous les appels dans l'Église viennent de Dieu par l'intermédiaire de ses serviteurs choisis. J'ai ressenti distinctement la confirmation spirituelle que ma nouvelle affectation était inspirée. Il est important que nous fassions ce lien, à savoir que nos appels nous viennent littéralement de Dieu par l'intermédiaire de nos dirigeants de la prêtrise. Après cette expérience, mon comportement a changé et j'ai été rempli d'un désir profond de servir. Je suis reconnaissant de la bénédiction du repentir et de mon changement de cœur. J'aime ma nouvelle affectation. Même si nous pensons que notre appel dans l'Église est simplement l'idée de nos dirigeants de la prêtrise, ou que nous l'avons reçu parce que personne d'autre n'en voulait, nous serons bénis si nous servons. Mais lorsque nous reconnaissons la main de Dieu dans notre appel et servons de tout notre cœur, un pouvoir supplémentaire viendra dans notre service et nous deviendrons de véritables serviteurs de Jésus-Christ. Cela demande de la foi de remplir des appels. Peu après être arrivés dans la ferme, Joseph et Maria sont tombés gravement malades. Ils n'avaient pas d'argent, étaient entourés de gens qu'ils ne connaissaient pas. Ce fut un moment difficile pour eux. Dans son journal, Joseph écrit : « Nous avons continué à travailler et nous nous sommes accrochés à l'Église avec le peu de foi que nous avions, bien que le diable ait cherché à nous détruire et à nous faire repartir. Je serai éternellement reconnaissant avec des centaines d'autres descendants que Joseph et Maria ne soient pas repartis. Nous recevons des bénédictions lorsque nous persévérons dans nos appels et nos responsabilités et lorsque nous nous accrochons avec toute la foi que nous possédons. Je connais une merveilleuse instructrice de la classe des principes de l'Évangile qui édifie les membres de sa classe, bien que cela n'ait pas toujours été le cas. Après être devenue membre de l'Église, elle a reçu l'appel d'enseigner à la primaire. Elle avait le sentiment de n'avoir aucune compétence pour enseigner. Mais parce qu'elle connaissait l'importance du service, elle a accepté. Elle a rapidement été submergée par la peur et elle a arrêté de venir aux réunions pour ne pas avoir à enseigner. Heureusement, son visiteur au foyer a remarqué son absence, lui a rendu visite et l'a invité à revenir. L'évêque et les membres de la paroisse l'ont aidée. Finalement, avec une foi accrue, elle a commencé à instruire les enfants, tandis qu'elle appliquait les principes qui se trouvent aujourd'hui dans le manuel « Enseigner la manière du Sauveur », le Seigneur a béni ses efforts et est devenue une instructrice talentueuse. L'homme naturel ou la femme naturelle en chacun de nous est enclin à se donner des excuses pour ne pas servir, telles que « Je ne suis pas prêt à servir, j'ai encore des choses à apprendre, je suis fatigué et j'ai besoin d'une pause, je suis trop vieux, c'est autour de quelqu'un d'autre » ou je suis tout simplement trop occupé. Frères et sœurs, c'est un acte de foi d'accepter et de remplir un appel. Nous pouvons placer notre confiance en ce que notre prophète Thomas Esmondson enseigne de façon répétée. Le Seigneur qualifie la personne qu'il appelle. Et quand on est au service du Seigneur, on a droit à son aide. Fin de citation. Que nous soyons impressionnés ou pas, que nous soyons morts de peur ou que nous enseignions à mourir, le Seigneur veut que nous rétrogradions et que nous générions plus de puissance pour servir. Je ne vois rien qui montre que le président Monson et les frères qui lui sont associés dans la première présidence et le Collège des douze apôtres sont trop occupés ou trop fatigués. Ils incarnent d'une manière inspirante le pouvoir qui vient dans notre vie lorsque nous faisons preuve de foi, acceptons les tâches et nous en acquittons avec engagement et consécration. Ils ont travaillé plein d'ardeur de nombreuses années auparavant et ils continuent d'aller de l'avant vers le haut. Il est vrai qu'ils ont des appels importants, mais chaque appel ou chaque tâche est importante. Gordon B. Hinckley, ancien prophète et président de l'Église, a déclaré « Nous sommes tous unis dans cette grande œuvre. Votre obligation est aussi sérieuse dans votre domaine de responsabilité que mon obligation dans le mien. Aucun appel dans cette Église n'est petit ou de peu de conséquences. » Fin de citation. Chaque appel est important. Élevons-nous avec foi, travaillons avec ardeur et faisons avancer cette œuvre noble. Enclenchons le différentiel avec ma fidèle tante Dorothy. En tant que frères et sœurs, servons. Si vous voulez égayer la journée de votre évêque ou de votre président de branche, demandez-lui ce que vous pouvez faire pour aider. Où le Seigneur veut-il que je serve? En priant et en réfléchissant à vos responsabilités personnelles, familiales et professionnelles, il recevra l'inspiration de vous lancer un appel adapté. Lorsque vous serez mis à part, vous recevrez une bénédiction de la prêtrise pour vous aider à réussir. Vous serez béni. Nous avons besoin de chaque membre, et chaque membre a besoin d'une occasion de servir. Jésus-Christ, notre grand exemple, a consacré sa vie à l'œuvre de son Père. Dans le grand conseil qui a précédé l'organisation de ce monde, Jésus, choisi et oint depuis le commencement, s'est porté volontaire. « Me voici, envoie-moi. » Ce faisant, il est littéralement devenu notre serviteur à tous. Grâce à Jésus-Christ et au pouvoir que nous recevons par son expiation, nous pouvons aussi servir. Il nous aidera. J'exprime mon amour sincère à ceux d'entre vous qui ne peuvent peut-être pas en ce moment servir dans l'Église d'une manière traditionnelle en raison de leur situation personnelle, mais qui vivent dans un esprit de service. Je prie pour que vous soyez bénis dans vos efforts. J'exprime aussi ma reconnaissance pour ceux qui magnifient leur appel semaine après semaine, ainsi que ceux qui accepteront prochainement un appel à servir. Toutes les contributions et tous les sacrifices sont estimés, en particulier par celui que nous servons. Tous ceux qui servent recevront la grâce de Dieu. Quel que soit notre âge ou notre situation, faisons du service notre slogan. Servez dans votre appel, partez en mission, servez votre mère, servez un inconnu, servez votre voisin, servez tout simplement. Je prie pour que le Seigneur bénisse chacun de nous dans nos efforts pour servir et pour devenir de véritables disciples de Jésus-Christ. Je témoigne qu'il vit et qu'il dirige cette œuvre. Au nom de Jésus-Christ, amen.
On a single signal from the conductor.
Au signal du directeur de la musique, l'assemblée se joindra au chœur pour chanter tout au sommet des monts. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Ronald Rasband du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Ivan Schmutz et de Brett Natress des 70. Après leur discours, le chœur chantera « Je suivrai toujours le Sauveur ». Dale Renlund du Collège des Douze Apôtres nous adressera ensuite la parole. Vous assistez à la 186e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Good afternoon, dear brothers and sisters. How blessed we have been during this conference.
Bonjour, chers frères et sœurs. Combien nous avons été bénis durant cette conférence. Cette première année au Collège des Douze Apôtres a été une grande leçon d'humilité. Cela a été une année de mise à l'épreuve, de progression et de supplication sincère et constante adressée à mon Père Céleste. J'ai senti le soutien des prières de ma famille, de mes amis et des membres de l'Église du monde entier. Merci de vos pensées et de vos prières. J'ai également eu le plaisir de rencontrer des amis qui me sont chers, certains que je connais depuis des années, d'autres dont j'ai récemment fait la connaissance. C'est après un entretien avec un ami cher que je connais et que j'aime depuis de nombreuses années que je me suis senti poussé à préparer mon discours d'aujourd'hui. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il m'a confié qu'il était éprouvé. Il avait le sentiment de traverser, pour employer ses mots, une crise de foi et m'a demandé conseil. J'étais reconnaissant qu'il me fasse part de ses sentiments et de ses préoccupations. Il m'a dit qu'il avait très envie de ressentir ce qu'il avait ressenti autrefois spirituellement et qu'il pensait maintenant être en train de perdre. Pendant qu'il parlait, j'ai écouté attentivement et j'ai demandé sincèrement au Seigneur ce qu'il voulait que je dise. Mon ami, comme certains d'entre vous peut-être, a posé la question, formulée de façon très émouvante dans le chant de la prière, « Père Céleste, es-tu vraiment là ?» Pour ceux d'entre vous qui se posent la même question, j'aimerais vous faire part du conseil que je donnerai à mon ami. Et j'espère que la foi de chacun de vous en sera affermie et que votre détermination d'être un disciple engagé de Jésus-Christ en sera renouvelée. Je commence par vous rappeler que vous êtes un fils ou une fille d'un Père céleste aimant et que son amour demeure constant. Je sais qu'il est difficile de se remémorer ces sentiments rassurants d'amour lorsque l'on est au milieu de difficultés personnelles ou d'épreuves, de déceptions ou de rêves anéantis. Jésus-Christ sait ce que sont les difficultés et les épreuves intenses. Il a donné sa vie pour nous. Ces dernières heures ont été cruelles, au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre, mais son sacrifice pour chacun de nous était l'expression suprême de son amour pur. Aucune faute, aucun péché, aucun choix n'altérera l'amour de Dieu pour nous. Cela ne signifie pas qu'il cautionne un comportement pécheur, ni qu'il nous dispense de notre obligation de nous repentir lorsque nous commettons des péchés. N'oubliez pas que notre Père Céleste connaît et aime chacun d'entre nous et qu'il est toujours prêt à aider. En méditant sur la situation de mon ami, j'ai réfléchi à la grande sagesse de ce passage du livre de Mormon. Et maintenant, mes fils, souvenez-vous que c'est sur le roc de notre Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation, afin que lorsque le diable enverra ses vents puissants, oui, ses traits dans le tourbillon, oui, lorsque toute sa grêle et sa puissance tempête s'abattront sur vous, cela n'ait aucun pouvoir sur vous pour vous entraîner en bas jusqu'au gouffre de misère et de malheur sans fin, à cause du roc sur lequel vous êtes bâti, qui est une fondation sûre, une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. Je témoigne que le gouffre de misère et de malheur sans fin est un endroit où personne ne veut se trouver. Mon ami avait le sentiment d'en être au bord. Quand j'ai discuté avec des personnes telles que mon ami, j'ai examiné les décisions qu'elles ont prises au fil des années qui les ont conduites à oublier des expériences sacrées, à s'affaiblir et à douter. Je les ai encouragées, comme je vous encourage maintenant, à vous souvenir, surtout en temps de crise, des moments où vous avez ressenti l'Esprit et où votre témoignage était fort. Souvenez-vous du fondement spirituel sur lequel vous avez bâti. Je vous promets que si vous le faites en évitant ce qui n'édifie pas et n'affermit pas votre témoignage, ou ce qui se moque de vos croyances, ces moments précieux où votre témoignage a prospéré vous reviendront en mémoire par la prière humble et le jeûne. Je vous assure que vous sentirez de nouveau la sécurité et la chaleur de l'Évangile de Jésus-Christ. Chacun de nous doit d'abord se fortifier spirituellement et ensuite fortifier son entourage. Méditez régulièrement sur les Écritures et souvenez-vous des pensées et des sentiments que vous avez eus en les lisant. Recherchez d'autres sources de vérité, mais prêtez l'oreille à cette mise en garde des Écritures. Mais être instruit est une bonne chose si l'on écoute les recommandations de Dieu. Assistez aux réunions de l'Église, surtout à la réunion de Sainte-Cène, et prenez-la et renouvelez vos alliances. Entre autres, la promesse de toujours vous souvenir du Sauveur, afin que son Esprit soit toujours avec vous. Quelles que soient les fautes que nous avons commises et la mesure dans laquelle nous nous sentons imparfaits, nous pouvons toujours faire du bien aux autres et les édifier. Leur tendre la main par le service chrétien peut nous permettre de ressentir l'amour de Dieu au plus profond de notre cœur. Il est important de se souvenir de l'excellent conseil qui se trouve dans Deutéronome. Veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Tes générations sont affectées par les choix que nous faisons. Rendez votre témoignage aux membres de votre famille. Encouragez-les à se souvenir de ce qu'ils ont ressenti quand ils ont reconnu la manifestation de l'Esprit dans leur vie et à noter ces sentiments dans leur journal ou leur histoire personnelle afin que leurs propres paroles puissent, au besoin, leur rappeler combien le Seigneur a été bon avec eux. Vous vous rappelez que Néphi et ses frères sont retournés à Jérusalem pour se procurer les plaques d'airain qui relataient l'histoire de leur peuple, en partie afin qu'ils n'oublient pas leur passé. Également, dans le livre de Mormon, Élaman a donné à ses fils le nom de leurs premiers parents, afin qu'ils n'oublient pas la bonté de Dieu, du Seigneur. Voici mes fils. Je désire que vous vous souveniez de garder les commandements de Dieu. Voici, je vous ai donné le nom de nos premiers parents qui sortirent du pays de Jérusalem. Et cela, je l'ai fait afin que lorsque vous vous souvenez de vos noms, vous vous souveniez d'eux. Et que lorsque vous vous souvenez d'eux, vous vous souveniez de leurs œuvres. Et lorsque vous vous souvenez de leurs œuvres, vous sachiez qu'il est dit et aussi écrit qu'elles étaient bonnes. C'est pourquoi, mes fils, je voudrais que vous fassiez ce qui est bien, afin que l'on puisse dire de vous et aussi écrit ce qui a été dit et écrit à leur sujet. Beaucoup aujourd'hui perpétuent la même tradition de donner à leurs enfants le nom de héros des Écritures ou d'ancêtres fidèles pour les encourager à ne pas oublier leur héritage. Quand je suis né, on m'a donné le nom de Ronald et A. Rasband. Mon nom de famille honore ma lignée paternelle. L'initiale A m'a été donnée pour me rappeler d'honorer ma lignée maternelle danoise, celle des Anderson. Mon arrière-arrière-grand-père Jens Andersen venait du Danemark. En 1861, le Seigneur conduisit deux missionnaires mormons chez Jens et Anne-Catherine Andersen, où ils leur présentèrent, à eux et à leur fils Andrew, qui avait 16 ans, l'Évangile rétabli. Ainsi commença un patrimoine de foi dont ma famille et moi sommes les bénéficiaires. Les Anderson lurent le livre de Mormon et se firent baptiser peu de temps après. L'année suivante, la famille Anderson répondit à l'appel d'un prophète de franchir l'Atlantique et de rejoindre les saints en Amérique du Nord. Malheureusement, Jens mourut pendant la traversée de l'océan, mais sa femme et son fils continuèrent jusqu'à la vallée du lac Salé où ils arrivèrent le 3 septembre 1862. En dépit de l'adversité et du chagrin, leur foi ne chancela jamais, pas plus que celle de nombre de leurs descendants. Dans mon bureau, il y a une peinture d'Arnold Fieber. La scène représente cette première réunion entre mes ancêtres et ces premiers missionnaires consacrés. Je suis déterminé à ne jamais oublier mon héritage. Et à cause de mon nom, je me souviendrai toujours leur héritage de foi et de sacrifice. Vous ne devez jamais oublier, remettre en question ou ignorer les expériences spirituelles sacrées. Le dessein de l'adversaire est de détourner notre attention des témoignages spirituels, alors que le désir du Seigneur est de nous éclairer et de nous attirer dans son œuvre. Je vais vous donner un exemple personnel de cette vérité. Je me souviens clairement d'une occasion où j'ai reçu une inspiration en réponse à une prière fervente. La réponse était claire et puissante. Cependant, je n'ai pas réagi immédiatement. Et au bout d'un certain temps, j'ai commencé à me demander si ce que j'avais ressenti était bien réel. Certains d'entre vous ont peut-être succombé à cette tromperie de l'adversaire. Plusieurs jours plus tard, je me suis réveillé avec ce verset d'écriture marquant à l'esprit. En vérité, je te le dis, si tu désires un témoignage de plus, reporte-toi à la nuit où tu as crié vers moi dans ton cœur. N'ai-je pas apaisé ton esprit à ce sujet? Quel témoignage plus grand peux-tu avoir que celui de Dieu? C'était comme si le Seigneur disait, « Allons, Ronald, je t'ai déjà dit ce que tu devais faire. Maintenant, fais-le. » Combien j'étais reconnaissant de cette correction et de cette directive aimante. J'étais immédiatement réconforté par l'inspiration et j'ai pu avancer en sachant intimement que ma prière avait été exaucée. Je raconte cette anecdote pour montrer à quelle vitesse notre esprit peut oublier et comment les expériences spirituelles nous guident. J'ai appris à chérir ces moments de peur que je n'oublie. À mon ami et à toutes les personnes qui veulent renforcer leur foi, je fais cette promesse. Si vous respectez fidèlement l'évangile de Jésus-Christ et suivez ses enseignements, votre témoignage sera protégé et il grandira. Respectez les alliances que vous avez contractées, quelles que soient les actions des personnes qui vous entourent. Soyez des parents, des frères et sœurs, des grands-parents, des tantes, des oncles et des amis diligents qui fortifient leurs êtres chers par leurs témoignages personnels et qui racontent des expériences spirituelles. Restez fidèles et constants, même lorsque les actions des autres causent des tempêtes de doute qui envahissent votre vie. Recherchez ce qui vous édifiera et vous fortifiera spirituellement. Évitez les contrefaçons de prétendues vérités qui sont si répandues et souvenez-vous de noter vos sentiments d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bénignité, de fidélité, de douceur et de tempérance. Au milieu des plus grandes tempêtes de la vie, n'oubliez pas votre héritage divin de fils ou de fille de Dieu, ni votre destinée éternelle, qui est de retourner un jour vivre en sa présence, ce qui surpasse tout ce que le monde a à offrir. Souvenez-vous des paroles tendres d'Alma. Voici, je vous le dis, mes frères, si vous avez connu un changement de cœur, et si vous avez ressenti le désir de chanter le cantique de l'amour rédempteur, je vous le demande, pouvez-vous le ressentir maintenant? Vous tous qui éprouvez le besoin de voir votre foi affermie, je vous en supplie, n'oubliez pas. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Je témoigne que Joseph Smith était un prophète de Dieu. Je sais qu'il a vu Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ et qu'il a parlé avec eux tout comme il l'a rapporté en ses propres termes. combien je suis reconnaissant qu'il n'ait pas oublié de noter cette expérience, afin que nous connaissions tous son témoignage. Je témoigne solennellement du Seigneur Jésus-Christ. Il vit. Je sais qu'il vit et qu'il est à la tête de cette Église. Je sais ces choses de moi-même, indépendamment de toute autre voix ou témoin. Et je prie pour que vous et moi n'oublions jamais les vérités éternelles sacrées, premièrement et avant tout, que nous sommes fils et filles de parents célestes vivants et aimants, qui n'ont d'autre désir que notre bonheur éternel. Je témoigne de ces vérités. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Dear brothers and sisters,
chers frères et sœurs, dans son plan, notre Père Céleste a permis que le chagrin fasse partie de notre expérience mortelle. Il semble que les épreuves douloureuses s'abattent de manière inégale sur nous, mais nous pouvons avoir l'assurance qu'à un degré ou à un autre, nous souffrons et connaissons tous les difficultés. Je prie pour que le Saint-Esprit nous guide vers une plus grande compréhension des raisons pour lesquelles il doit en être ainsi. Quand nous regardons les expériences difficiles de la vie à travers le prisme de la foi en Christ, nous sommes capables de voir qu'il y a un but divin à nos souffrances. Les fidèles peuvent connaître la véracité du conseil contradictoire en apparence de Pierre. Il a écrit, « Quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. » Si nous appliquons notre cœur pour avoir l'intelligence, nous pouvons aussi augmenter notre capacité à bien supporter nos épreuves, en tirer des enseignements et être raffinés par elles. Cette compréhension répond à l'éternelle question, pourquoi arrive-t-il de mauvaises choses à de braves gens? Toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui connaissent à un certain degré la solitude, le désespoir, la douleur ou le chagrin. Sans l'œil de la foi et la compréhension de la vérité éternelle, nous trouvons souvent que la misère et la souffrance que nous rencontrons dans la condition mortelle peuvent obscurcir ou éclipser la joie éternelle de savoir que le grand plan de notre Père Céleste est réellement le plan éternel du bonheur. Et il n'existe aucun autre moyen de recevoir la plénitude de joie. Dieu nous invite à réagir avec foi à nos afflictions, afin de pouvoir en récolter les bénédictions cachées et obtenir une connaissance qui ne peut être apprise autrement. Il nous est enseigné de garder les commandements en toutes circonstances, car la récompense de celui qui est fidèle dans les tribulations est plus grande dans le royaume des cieux. Comme nous lisons dans les Écritures, « Si tu es triste, invoque le Seigneur ton Dieu en supplication afin que ton âme soit dans la joie. » L'apôtre Paul, qui a lui aussi connu des afflictions, s'est appuyé sur sa propre expérience pour l'enseigner avec profondeur et beauté la perspective éternelle que nous acquérons quand nous supportons bien et patiemment. Il a dit, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » En d'autres termes, nous pouvons savoir au milieu de nos afflictions que Dieu a prévu une récompense éternelle en compensation. La façon dont Paul qualifie les épreuves, les persécutions et les peines de sa vie de légères afflictions. Elle minimise la dureté de ses souffrances qui, pour lui, ont été englouties dans la perspective éternelle de l'Évangile. Sa foi en Jésus-Christ lui a permis de supporter toutes choses. 5 fois il a été frappé, 2 fois battu de verges, 1 fois lapidé, 3 fois naufragé. Il a souvent été en danger de mort par noyade, par des voleurs, par de faux frères même. Il a souffert l'épuisement et la douleur, la faim et la soif. Il a été jeté nu en prison dans le froid. Il est arrivé à beaucoup d'entre nous de supplier Dieu de nous débarrasser de la cause de nos souffrances. Et quand l'aide que nous avions demandée n'est pas venue, nous avons été tentés de penser qu'il ne nous écoutait pas. Je témoigne que même dans ces moments, il entend nos prières.
Il a une raison de permettre à nos afflictions de continuer et il nous aidera à les supporter. Dans un passage intime et révélant sa pensée profonde, Paul nous parle sans la décrire d'une écharde dans sa chair qui les faisait grandement souffrir, le poussant à s'agenouiller 3 fois pour supplier le Seigneur de la lui ôter. En réponse à sa prière, le Seigneur n'a pas retiré l'écharde, mais lui a procuré une paix et une compréhension intérieure quand il a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette compréhension nouvelle a permis à Paul d'accepter l'écharde qui lui avait été donnée et d'en être reconnaissant. Il a dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Si nous acquérons cette perspective éternelle dans notre vie, notre aptitude à persévérer grandira. Nous apprendrons comment secourir les personnes qui ont besoin d'être secourues. Nous apprécierons les expériences que Dieu permet que nous ayons comme des tuteurs sur le chemin de la vie éternelle. Et nous l'en remercierons même. Quand il arrive que nous avancions avec peine au milieu des tribulations, nous pouvons avoir du mal à considérer nos épreuves comme des jalons sur notre sentier personnel de disciples. Mais que nous soyons tantôt dans la vallée ténébreuse du désespoir, tantôt sur la grande route du bonheur, ce peut être une bénédiction de tirer des leçons des souffrances des autres et d'éprouver de la compassion pour eux. Lors d'une conférence de pieux aux Philippines à laquelle j'ai assisté, j'ai eu le cœur brisé en apprenant la tragédie qu'a vécu Daniel Apilado. Frère Apilado et sa femme se sont fait baptiser en 1974. Ils ont accepté l'Évangile rétabli et ont été scellés dans le temple. Ensuite, ils ont eu la bénédiction d'avoir 5 magnifiques enfants. Le 7 juillet 1997, époque à laquelle Frère Apilado était président de pieux, un incendie éclata dans leur petite maison. Michael, le fils aîné de Frère Apilado, est allé au secours de son père et l'a tiré de la maison en flammes, puis s'est précipité de nouveau pour secourir les autres. C'est la dernière fois que Frère Apilado a vu son fils vivant. Les flammes ont emporté Dominga, sa femme, et leurs 5 enfants. Le fait que Frère Apilado menait une vie agréable à Dieu quand la tragédie a frappé n'a pas empêché qu'elle se produise, ni ne lui a évité la tristesse qui a suivi. Mais sa fidélité à respecter ses alliances et à exercer sa foi en Christ lui a donné l'assurance de la promesse qu'il serait réuni de nouveau avec sa femme et sa famille. Cette espérance est devenue une ancre pour son âme. Lors de ma visite, Frère Apilado, aujourd'hui patriarche de pieux, m'a présenté sa nouvelle femme, Simonette, et leurs 2 fils, Raphaël et Daniel. Jésus-Christ peut véritablement guérir ceux qui ont le cœur brisé, et il le fera. En racontant l'histoire de Frère Apilado, je crains que l'immensité de ce qu'il a perdu pousse beaucoup de personnes à se dire que leur propre tristesse et souffrance sont peu de choses en comparaison. Ne comparez pas, mais cherchez à apprendre et à appliquer des principes éternels tandis que vous traversez la fournaise de vos propres afflictions. À vous tous qui êtes fatigués et chargés, j'aimerais dire que vos difficultés personnelles, vos peines, vos sentiments de solitude, de deuil, de désespoir, de vos douleurs, tribulations et infirmités de toutes sortes sont tous connus de notre Père Céleste et de son Fils. Ayez foi, prenez courage et croyez aux promesses de Dieu. Le but et la mission de Jésus-Christ étaient entre autres de prendre sur lui les souffrances et les maladies de son peuple, de prendre sur lui ses infirmités et de le secourir selon ses infirmités. Pour recevoir pleinement ces dons que notre Sauveur a offerts si gracieusement, nous devons tous apprendre qu'en soi, la souffrance ne nous enseigne ni ne nous accorde rien qui est une valeur durable, à moins que nous nous engagions délibérément dans le processus par lequel nous tirerons des enseignements de nos afflictions grâce à l'exercice de la foi. Neil A. Bexwell, notre frère bien-aimé, a expliqué en ces termes ce que lui enseignait une souffrance donnée à dessein. Je cite, « Certaines formes de souffrance, bien supportées, peuvent réellement ennoblir. Bien supportées consiste en partie à être suffisamment humble au milieu de nos souffrances pour apprendre de nos expériences personnelles. Nous ne devons pas seulement traverser ces épreuves, mais nous devons leur permettre de nous pénétrer de manière à ce qu'elles nous sanctifient. » Fin de citation. Dans la vie et l'exemple d'autres personnes, j'ai observé que l'exercice d'une foi ferme et constante en Jésus-Christ et dans ses promesses produit une espérance certaine de choses meilleures à venir. Cette espérance certaine nous stabilise en nous apportant la force et le pouvoir dont nous avons besoin pour persévérer. Quand nous réussissons à associer notre souffrance à l'assurance du but de notre existence mortelle et plus spécifiquement à la récompense qui nous attend dans les lieux célestes, notre foi en Christ augmente et nous recevons du réconfort en notre âme. Alors, nous pouvons voir la lumière à la sortie du tunnel. Jeffrey Holland a enseigné, je cite, « Il y a réellement de la lumière au bout du tunnel. C'est la lumière du monde, l'étoile brillante du matin, une lumière qui est sans fin, qui ne peut jamais être obscurcie. Il s'agit du Fils de Dieu lui-même. » Fin de citation. Nous pouvons puiser de la force dans la connaissance que toutes les expériences dures de cette vie sont temporaires, que même les nuits les plus noires font place à l'aube. Une fois que tout sera fini et que nous aurons supporté tout avec foi en Jésus-Christ, nous avons la promesse que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Je témoigne que Dieu, notre Père et son Fils Jésus-Christ vivent et qu'ils tiennent leurs promesses. Je témoigne que le Sauveur nous invite tous à venir et à prendre part à son expiation. Si nous faisons preuve de foi en lui, il nous édifiera, nous aidera à traverser nos épreuves et à la fin, nous sauvera dans le royaume céleste. Je vous invite à aller au Christ, à bien supporter dans la foi et être rendu parfait en lui, avec une joie parfaite, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Frères et sœurs, j'ai récemment médité sur cette question. Si tout ce que vos enfants savaient à propos de l'Évangile devait venir de vous, si vous étiez leur seule source, combien en sauraient-ils? Cette question s'applique à toutes les personnes qui aiment, qui guident et qui influencent les enfants. Y a-t-il un plus grand cadeau à offrir à nos enfants que le souvenir profondément ancré dans leur cœur que nous savons que notre Rédempteur vit? Savent-ils que nous savons? Et plus important encore, savent-ils personnellement qu'il vit? Lorsque j'étais petit garçon, j'étais celui des enfants de ma mère le plus difficile à élever. Je débordais d'énergie. Ma mère me raconte que sa plus grande crainte était que je ne vive pas jusqu'à l'âge adulte. J'étais tout simplement trop actif. Je me revois jeune enfant assis en famille lors d'une réunion de Sainte-Seine. Ma mère venait de recevoir un nouveau jeu d'écriture. Ce nouveau jeu comprenait l'intégralité des ouvrages canoniques dans une édition reliée et au centre se trouvait une partie avec du papier ligné pour prendre des notes. Au cours de cette réunion, j'ai demandé à ma mère si je pouvais avoir son jeu d'écriture. Avec l'espoir que cela me porterait à la révérence, elle me l'a fait passer au bout du banc. Tandis que je le parcourais, j'ai remarqué qu'elle avait inscrit un but personnel dans la section des notes. Pour vous mettre dans le contexte, je dois vous dire que je suis le second d'une fratrie de 6 et que je m'appelle Brett. Ma mère avait écrit en rouge un seul et unique objectif. Patience avec Brett. Comme preuve supplémentaire qui vous aidera à comprendre le défi que mes parents ont dû relever en élevant leurs enfants, je vais vous parler un peu de notre étude des Écritures en famille. Chaque matin, ma mère nous lisait le Livre de Mormon pendant le petit déjeuner. Pendant ce temps, mon frère aîné, Dave, et moi étions assis silencieux mais irrévérencieux. Pour être complètement honnête, nous n'écoutions pas. Nous lisions ce qui était écrit sur les boîtes de céréales. Finalement, un matin, j'ai décidé de mettre les choses au clair avec ma mère. Je me suis exclamé, « Maman, pourquoi est-ce que tu nous fais ça ? Pourquoi est-ce que tu nous lis le livre de Mormon tous les matins ?» Puis j'ai fait une déclaration que je suis gêné d'avouer. En fait, je n'arrive pas à croire que j'ai pu dire cela. Je lui ai dit, « Maman, je n'écoute pas. » Sa réponse aimante a été un tournant dans ma vie. Elle m'a dit, « Mon fils, je suis allé à une réunion où le président Romney a parlé de la bénédiction de la lecture des Écritures. Au cours de cette réunion, j'ai reçu la promesse que si je lisais le livre de Mormon avec mes enfants tous les jours, je ne les perdrais pas. » Puis, elle m'a regardé droit dans les yeux et avec une détermination absolue m'a dit, « Et je ne te perdrai pas. » Ces mots ont transpercé mon cœur. Malgré mes imperfections, je valais la peine d'être sauvé. Elle m'a enseigné la vérité éternelle que je suis le fils d'un Père céleste aimant. J'ai appris que, quelles que soient les circonstances, j'en valais la peine. Cela a été un moment parfait pour le jeune garçon imparfait que j'étais. Je serai éternellement reconnaissant à l'ange qui était ma mère et à tous les anges qui aiment les enfants parfaitement en dépit de leurs imperfections. Je crois fermement que toutes les sœurs, je les appellerai des anges, sont des mères en Sion. Qu'elles soient mariées ou non, ou qu'elles aient des enfants ou non durant cette existence terrestre. Il y a des années, la première présidence a proclamé « La maternité est proche de la divinité. C'est le service le plus élevé et le plus saint qui puisse être assumé par des humains. Il place la personne qui honore cet appel et ce service sacré juste après les anges. Je suis reconnaissant aux anges au sein de l'Église qui proclament avec hardiesse et tendresse la vérité éternelle aux enfants de notre Père Céleste. Je suis reconnaissant du don qu'est le livre de Mormon. Je sais qu'il est vrai. Il contient la plénitude de l'Évangile éternel. Je n'ai connaissance de personne qui, en lisant le livre de Mormon diligemment chaque jour, avec une intention réelle et la foi au Christ, ait perdu son témoignage et s'est égaré. La promesse du prophète Moroni comporte la clé de la connaissance de toutes choses, y compris la capacité de discerner et d'éviter les tromperies de l'adversaire. Je suis également reconnaissant envers notre Père Céleste aimant et son Fils Jésus-Christ. Le Sauveur a donné l'exemple parfait de la manière de vivre dans un monde imparfait et injuste. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Son amour pour nous est incommensurable. Il est notre plus sûr ami. Pour vous et moi, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Pour vous, ainsi que pour moi. Il a pardonné celui qui semble impardonnable. Il a aimé le mal aimé. Il a fait ce qu'aucun mortel ne pouvait faire. Il a offert une expiation pour surmonter les transgressions, les douleurs et les maladies de toute l'humanité. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, nous pouvons vivre avec la promesse que, quelles que soient nos difficultés, nous pouvons toujours garder l'espérance en lui, qui est puissant à sauver. Grâce à son expiation, nous pouvons avoir la joie, la paix, le bonheur et la vie éternelle. Boyke Packer a déclaré, « Sauf pour les rares personnes qui suivent les voies de la perdition, il n'y a pas d'habitude, de dépendance, de rébellion, de transgression, d'apostasie, de délit, qui ne puissent être complètement pardonnés comme cela a été promis. » C'est la promesse du sacrifice expiatoire du Christ. L'un des événements les plus incroyables de l'histoire de l'humanité et le ministère du Sauveur parmi les anciens habitants de l'Amérique. Visualisez dans votre esprit comment cela aurait été d'être là. En méditant sur son amour et ses tendres soins pour ce groupe de saints rassemblés au temple, j'ai réfléchi aux enfants que j'aime plus que ma propre vie. J'ai essayé d'imaginer ce que j'aurais éprouvé si nos petits avaient été là, si j'avais été personnellement témoin du moment où le Sauveur a invité chaque enfant à venir à lui, si je l'avais vu les bras tendus, et si je m'étais tenu là tandis que chaque enfant, un par un, touchait délicatement les marques dans ses mains et dans ses pieds. Enfin, si j'avais entendu chacun d'eux rendre témoignage qu'il vit, entendre nos enfants se retourner et dire « Maman, papa, c'est lui ». Je ne sais pas s'il y a quelque chose au monde qui pourrait nous apporter davantage de bonheur et de joie que de savoir que nos enfants connaissent le Sauveur, de savoir qu'ils savent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. C'est la raison pour laquelle, en tant que membres de l'Église, nous prêchons le Christ et nous témoignons du Christ. C'est pour cette raison que nous prions avec nos enfants chaque jour. C'est pour cette raison que nous lisons les Écritures avec eux chaque jour. C'est pour cette raison que nous leur enseignons à servir les autres, de façon à ce qu'ils puissent obtenir la bénédiction de se trouver en se perdant au service des autres. En nous consacrant à ces principes simples qui font de nous des disciples, nous armons nos enfants de l'amour du Sauveur, ainsi que de la direction et de la protection divine pour les moments où ils devront faire face au vent furieux de l'adversaire. L'Évangile a véritablement pour sujet chaque individu. Il a pour sujet une brebis perdue. Il a pour sujet une Samaritaine à un puits. Il a pour sujet un fils prodigue. Il a pour sujet un petit garçon qui dira peut-être qu'il n'écoute pas. Il a pour sujet chacun de nous, quelque imparfait que nous soyons, devenant un avec le Sauveur, tout comme il est un avec son Père. Je témoigne que nous avons un Père céleste aimant qui nous connaît par notre nom. Je témoigne que Jésus-Christ est le Fils vivant du Dieu vivant. Il est le Fils unique et notre avocat auprès du Père. Je témoigne encore que le salut vient d'eux et par son nom et par aucun autre moyen. Je prie pour que nous consacrions notre cœur et nos mains à aider tous les enfants de notre Père céleste à le connaître et à ressentir son amour. Si nous le faisons, il nous promet la joie et le bonheur éternel dans ce monde et dans le monde à venir. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
My dear brothers and sisters,
mes chers frères et sœurs, lorsque j'avais 12 ans, ma famille habitait Göteborg, ville côtière du sud de la Suède. L'église se trouvait dans une... C'était la ville natale de frère Per Malm qui est décédé. Nous sommes reconnaissants de la noblesse qui était la sienne, du service qu'il a rendu, l'exemple qu'il a été et de sa famille adorable. Et nous prions que les bénédictions soient sur sa veuve et ses enfants. L'église se trouvait dans une grande maison restaurée. Un dimanche, mon ami Stéphane, le seul autre diacre de la branche, m'a accueilli à l'église avec une certaine excitation. Nous sommes allés dans l'extension de la salle de culte. Il a sorti de sa poche un gros pétard et quelques allumettes. Dans un acte d'audace juvénile, j'ai pris le pétard et j'ai allumé la longue mèche grise. J'avais l'intention de l'éteindre avant l'explosion, mais lorsque je me suis brûlé les doigts en essayant de le faire, j'ai laissé tomber le pétard. Stéphane et moi avons regardé horrifiés la mèche continuer de se consumer. Le pétard a explosé et des émanations sulfureuses ont rempli l'extension et la salle de culte. Nous nous sommes dépêchés de nettoyer les débris de pétards éparpillés et avons ouvert les fenêtres pour tenter de chasser l'odeur, espérant naïvement que personne ne remarquerait rien. Heureusement, personne n'a été blessé, il n'y a pas eu de dégâts. En arrivant à la réunion, les membres ont bien remarqué la forte odeur. C'était difficile de le faire autrement. L'odeur a détourné l'attention de la nature sacrée de la réunion. Comme il n'y avait que deux diacres, j'ai distribué la Sainte Cène, bien que ne me sentant pas digne de la prendre. Sous l'effet de ce que l'on peut décrire comme une pensée dissociée, lorsque le plateau m'a été proposé, je n'ai pris ni le pain ni l'eau. Je me sentais horriblement mal, j'avais honte, et je savais ce que j'avais fait avait déplu à Dieu. Après les réunions, le président de branche, Franklin Berg, homme âgé, distingué, aux cheveux gris argentés, m'a demandé de venir dans son bureau. Je me suis assis. Il m'a regardé gentiment et a dit qu'il avait remarqué que je n'avais pas pris la Sainte Cène. Il m'a demandé pourquoi. Il devait le savoir. J'étais sûr que tout le monde savait ce que j'avais fait. Après que je lui ai dit, il m'a demandé ce que j'éprouvais. À travers mes larmes, j'ai balbutié que j'étais désolé et que je savais que j'avais déçu Dieu. Le président Lindbergh a ouvert un exemplaire bien usé des Doctrines et Alliances et m'a demandé de lire quelques versets surlignés. J'ai lu à voix haute ce qui suit. Voici, celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné. Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. C'est à ceci que vous saurez si un homme se repent de ses péchés. Voici, il les confessera et les délaissera. Je n'oublierai jamais le sourire compatissant du président Lindbergh quand j'ai relevé les yeux après avoir fini de lire. Il m'a dit avec une certaine émotion qu'il pensait que je pouvais recommencer à prendre la Sainte Cène. En quittant son bureau, j'ai ressenti une joie indescriptible. Une telle joie est l'un des résultats inhérents au repentir. Le mot « repentir » évoque l'idée de percevoir après et implique un changement. En suédois, le mot « omvänt » signifie simplement « faire demi-tour ». L'écrivain chrétien C.S. Lewis a parlé du besoin de changer de la méthode pour y parvenir. Il a déclaré que le repentir implique que nous soyons remis sur le droit chemin. Il a expliqué, on peut rectifier un calcul erroné, mais seulement en revenant en arrière, jusqu'à ce qu'on ait trouvé l'erreur, puis en recommençant à partir de là, jamais en se contentant de continuer. Le changement de comportement et le retour sur droit chemin sont une partie du processus de repentir, mais seulement une partie. Le véritable repentir comprend également le don de notre cœur et de notre volonté à Dieu et l'abandon du péché. Comme Ézéchiel l'explique, se repentir, c'est revenir du péché pratiquer la droiture et la justice, rendre le gage et suivre les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité. Mais c'est là encore une description incomplète. Elle n'identifie pas convenablement le pouvoir qui rend le repentir possible, le sacrifice expiatoire de notre Sauveur. Le véritable repentir doit impliquer la foi au Seigneur Jésus-Christ, la foi qu'il peut nous transformer, la foi qu'il peut nous pardonner, et la foi qui nous aidera à éviter de commettre encore des fautes. Ce genre de foi permet à son expiation d'opérer dans notre vie. Lorsqu'avec l'aide du Sauveur, nous percevons après et faisons demi-tour, nous pouvons éprouver l'espérance en ses promesses et la joie du pardon. Sans le Rédempteur, l'espérance et la joie s'évaporent et le repentir se transforme en un vulgaire changement de comportement. Mais en exerçant la foi en lui, nous nous convertissons à sa capacité et sa disposition de pardonner le péché. Boyd K. Packer, lors de sa dernière conférence générale en avril 2015, a confirmé les promesses porteuses d'espoir du repentir. Il a décrit le pouvoir de guérison de l'expiation du Sauveur dans ce que je considère comme un concentré de sagesse acquise au fil d'un demi-siècle de service apostolique. Il a dit, « L'expiation ne laisse aucune trace. Ce qu'elle répare est réparé. Elle guérit tout simplement. Et ce qu'elle guérit reste guéri. » Il a poursuivi, « L'expiation qui peut racheter chacun de nous ne laisse aucune cicatrice. Ce qui signifie que, quoi que nous ayons fait, ou quel que soit l'endroit où nous sommes allés, ou quoi qu'il ait pu se passer, le Sauveur a promis qu'il expierait si nous nous repentons vraiment. Et quand il a expié, c'est réglé. L'expiation peut laver chaque tâche, quelle que soit sa difficulté, sa durée, ou le nombre de fois que nous l'avons répété. La portée de l'expiation du Sauveur est d'une largeur et d'une profondeur infinie pour vous et pour moi. Mais elle ne nous sera jamais imposée. Comme le prophète Lehi l'a expliqué, une fois que nous sommes suffisamment instruits pour discerner le bien du mal, nous sommes libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes ou de choisir la captivité et la mort. Autrement dit, le repentir est un choix. Nous pouvons faire d'autres choix, et parfois nous les faisons. Ces choix peuvent ne pas sembler intrinsèquement mauvais, mais ils nous empêchent de devenir véritablement pénitents et de rechercher le vrai repentir. Nous pouvons, par exemple, choisir d'accuser les autres. À 12 ans, à Göteborg, j'aurais pu accuser Stéphane. Après tout, c'est lui qui avait apporté le gros pétard et les allumettes à l'église. Mais accuser les autres, même si c'est légitime, nous permet de justifier notre comportement. En le faisant, nous reportons sur les autres la responsabilité de nos actes. Lorsque la responsabilité est déplacée, nous ressentons moins le besoin d'agir et nous amoindrissons notre capacité de le faire. Nous nous transformons en victimes malchanceuses, non en agents capables d'agir de manière indépendante. Un autre choix qui entrave le repentir consiste à minimiser nos fautes. Dans l'incident du pétard de Göteborg, personne n'a été blessé, aucun dégât permanent n'a été occasionné, et la réunion s'est tenue quand même. Il aurait été facile de dire qu'il n'y avait aucune raison de se repentir. Mais le fait de minimiser nos fautes, même lorsqu'il n'y a pas de conséquences immédiates, apparentes, ôte la motivation pour changer. Cette façon de penser nous empêche de voir que nos fautes et nos péchés ont des conséquences éternelles. On pourrait aussi penser que nos péchés n'ont pas d'importance parce que Dieu nous aime quoi que nous fassions. Il est tentant de croire ce que Néor, le fourbe, enseignait au peuple de Zarahemla, que toute l'humanité serait sauvée au dernier jour et qu'il ne devait pas craindre ni trembler et qu'à la fin tous les hommes auraient la vie éternelle. Mais cette idée suite séduisante est fausse. Oui, Dieu nous aime. Cependant, ce que nous faisons lui importe. Il a donné des directives claires sur la manière dont nous devons nous comporter. Nous les appelons les commandements. Son approbation et notre vie éternelle dépendent de notre comportement, y compris de notre disposition à rechercher humblement le véritable repentir. De plus, nous nous privons du véritable repentir lorsque nous choisissons de séparer Dieu de ses commandements. Après tout, si la Sainte Cène n'était pas sacrée, l'odeur dérangeante de pétards dans cette réunion à Göteborg n'aurait aucune importance. Nous devons veiller à ne pas réduire la gravité d'un comportement inique en minimisant ou en ne prenant pas en considération le fait que Dieu est l'auteur de ses commandements. Le véritable repentir exige que nous reconnaissions la divinité du Sauveur et la véracité de son œuvre des derniers jours. Au lieu de nous trouver des excuses, choisissons de nous repentir. Grâce au repentir, nous pouvons entrer en nous-mêmes, comme le fils prodigue de la parabole, et réfléchir à la portée éternelle de nos actes. Lorsque nous comprenons comment nos péchés peuvent affecter notre bonheur éternel, non seulement nous devenons véritablement pénitents, mais nous nous efforçons également de devenir meilleurs. Lorsque nous sommes tentés, nous sommes plus susceptibles de nous demander, pour employer les paroles de William Shakespeare, « Qu'est-ce que je gagne si j'obtiens ce que je recherche? Un rêve? Un souffle? Une particule de joie fugace? Qui échangerait une minute de rire contre une semaine de larmes? Ou vendrait l'éternité pour avoir un jouet? » Si nous avons perdu l'éternité de vue pour un jouet, nous pouvons décider de nous repentir. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, nous avons une autre chance. D'une manière imagée, nous pouvons échanger le jouet acheté à mauvais escient et retrouver l'espoir de l'éternité. Comme l'a expliqué le Sauveur, car voici le Seigneur, votre Rédempteur, a souffert la mort dans la chair. C'est pourquoi il a éprouvé les souffrances de tous les hommes, afin que tous les hommes puissent se repentir et venir à lui. Jésus-Christ peut pardonner parce qu'il a payé le prix de nos péchés. Notre Rédempteur choisit de pardonner du fait de sa compassion et son amour incomparable. Notre Sauveur veut pardonner, car c'est l'un de ses attributs divins. Étant lui-même le bon berger, il se réjouit lorsque nous choisissons de nous repentir. Même lorsque nous éprouvons de la tristesse selon Dieu pour nos actes, quand nous choisissons de nous repentir, nous invitons immédiatement le Sauveur de notre vie. Comme Amulek l'a enseigné, avancez et ne vous endurcissez plus le cœur. Car voici, c'est maintenant le moment et le jour de votre salut. Et c'est pourquoi, si vous vous repentez et ne vous endurcissez pas le cœur, c'est immédiatement que le grand plan de rédemption se réalisera pour vous. Nous pouvons éprouver à la fois la tristesse selon Dieu pour nos actes et la joie de recevoir l'aide du Sauveur. Le fait que nous pouvons nous repentir est la bonne nouvelle de l'Évangile. La culpabilité peut être balayée. Nous pouvons être remplis de joie, recevoir la rémission de nos péchés et avoir la conscience en paix. Nous pouvons être libérés des sentiments de désespoir et de la servitude du péché. Nous pouvons être remplis de la lumière merveilleuse de Dieu et ne plus être dans la souffrance. Le repentir est non seulement possible, mais il est également joyeux grâce à notre Sauveur. Je me souviens encore des sentiments qui m'ont envahi dans le bureau du président de branche après l'épisode du pétard. Je savais que j'avais reçu le pardon. Mes sentiments de culpabilité s'étaient volatilisés. Ma tristesse s'était dissipée et j'avais le cœur léger. Frères et sœurs, à la fin de cette conférence, je vous invite à éprouver davantage de joie. La joie de savoir que l'expiation de Jésus-Christ est réelle. La joie de savoir que le Sauveur est disposé à pardonner, capable et désireux de le faire, et la joie d'avoir décidé de vous repentir. Suivons l'instruction du Sauveur de puiser avec joie aux sources du salut. Puissions-nous nous décider de nous repentir d'abandonner nos péchés, de faire demi-tour à notre cœur et à notre volonté pour suivre notre Sauveur. Je témoigne de la réalité de son existence. Je suis témoin et bénéficiaire répété de sa compassion, de sa miséricorde et de son amour incomparable. Je prie pour que les bénédictions rédemptrices de son expiation soient vôtres, maintenant et de façon répétée à travers toute votre vie, comme cela a été pour moi. Au nom de Jésus-Christ, amen.
At the conclusion of the conference.
À la fin de cette conférence, nous exprimons nos remerciements sincères à toutes les personnes qui ont travaillé diligemment pour préparer ces sessions. Nous remercions tous les orateurs ainsi que toutes les personnes qui nous ont édifiés par la musique. Nous saluons le travail des personnes qui ont préparé les bâtiments et de celles qui ont participé à la réalisation de tout ce qui est nécessaire pour diffuser ces sessions à travers le monde. Le chœur terminera cette conférence en chantant « Mettons de l'ardeur ». Eric Kopischke des 70 fera ensuite la prière de clôture et la conférence sera ajournée.
Notre cher Père Céleste, à la fin de cette magnifique conférence, nous t'exprimons de tout notre cœur notre amour pour toi et pour ton Fils. Père, nous te remercions pour le magnifique plan de salut et pour l'expiation de notre Sauveur. Nous voulons prendre pleinement part à ce don et à ces bénédictions. Nous te remercions pour les messages que nous avons écoutés. Nous avons été enseignés, édifiés. Nous te remercions pour la musique qui nous a également inspirés. Et nous te remercions pour les murmures que nous avons pu ressentir. Et nous te promettons qu'en rentrant dans nos foyers, nous étudierons ces messages et veuille nous accorder le don de ton esprit pour accroître notre entendement et pour faire de nous de meilleurs disciples pour édifier ton royaume. Père, alors que nous nous en allons, nous te demandons ta protection divine jusqu'à ce que nous nous revoyions. Nous t'aimons, Père. Nous voulons garder tes commandements. Aide-nous à ce faire. Et nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 186th semi.
Vous venez d'assister à une session de la 186e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le Mormon Tabernacle Choir. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.